Bonsoir tout le monde. Et je suis plein de reconnaissance pour tous les organisateurs. Je sais un peu ce que c'est que d'organiser des réunions de ce genre, tout ce que ça implique d'énergie. Alors, quoi la cavole. Et merci d'être venu. Shavua Tov. Je voudrais étudier avec vous un texte. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé que ce texte soit photocopié. J'espère que tout le monde en a. Ils ont tous. Sinon, c'est dommage, mais rien à faire. Et le texte que nous allons étudier, c'est un texte du traité de Berachot, dans la Gemara. C'est à la page Yud Bet Amud Bet, 12B, comme on dit en français. Vous excuserez mes difficultés à m'exprimer dans votre langue intérieure. En général, je parle en hébreu. Vous avez en bas de la page un texte de la Mishnah. C'est-à-dire, si vous comptez 7 lignes, à partir du bas, vous trouvez, en gros, écrit Matni. Matnitin, c'est-à-dire, c'est un texte de la Mishnah. Ce texte de la Mishnah, vous le connaissez par ailleurs, parce qu'il est presque intégralement reproduit dans la Haggadah de Pessah. Et nous allons l'étudier pour lui-même et voir ce que dit la Gemara de ce texte. D'habitude, lors de la soirée du Seder, nous ne lisons que la Mishnah. Et là, nous allons voir également la suite du débat. Alors, nous allons d'abord nous cantonner dans des problèmes techniques pour comprendre ce que dit le texte. Et après, nous comprendrons ce que veut dire le texte. Maskirin yetziat mitzraim baleilot. On rappelle la sortie d'Égypte pendant les nuits. Ça veut dire quoi ? Il y a un commandement dans la Torah qui est de lire le schéma le soir et le matin. D'où est-ce qu'on le sait ? Ben, dans les deux. Rappelons d'abord que la lecture du schéma est composée de 3 passages. Les 2 premiers passages sont récités le soir et le matin, ainsi qu'il est dit Beshor Becha Uvkumecha, lorsque tu vas te coucher et lorsque tu te lèves. Donc la Torah nous a dit de réciter le premier passage du schéma le soir et le matin, le deuxième passage du schéma le soir et le matin, et le troisième, c'est quoi ? Ben, le troisième, il parle de la sortie d'Égypte. Et l'auteur de la Mishnah nous dit, on rappelle la sortie d'Égypte aussi bien le soir que le matin. C'est quand on dit « Maskirin yetziat mitzraim balelot », on rappelle la sortie d'Égypte la nuit. Ça veut dire qu'on rappelle la sortie d'Égypte aussi la nuit et pas seulement le jour. Pourquoi faut-il rappeler la sortie d'Égypte tous les jours ? Tout simplement parce qu'un verset le dit en toutes lettres dans le livre de Devarim, « Leman tizkor et yom tzetra meretz mitzraim kol yemer hayecha » Il faut que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte tous les jours de ta vie. Ça veut donc dire que tous les jours de sa vie, il faut rappeler la sortie d'Égypte. C'est la raison d'être du troisième passage du schéma. Seulement, la Torah ne dit pas « Beshor Becha Uvkumecha » lors de ton coucher et lors de ton lever. Elle dit seulement « tous les jours de ta vie ». Donc, il suffirait de rappeler la sortie d'Égypte une fois par jour. Et pourtant, on la rappelle deux fois par jour, le soir et le matin. Et le problème de savoir d'où ça vient. De fait, cette halakha que nous accomplissons aujourd'hui n'était pas uniformément acceptée. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar, fils d'Azaria, et là c'est là que vous connaissez ce passage à partir de la Haggadah. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Hare ani kevel shivaim shana. Voilà, j'ai comme 70 ans. Je n'ai pas mérité de voir que l'on fixe le devoir de rappeler la sortie d'Égypte la nuit. C'est-à-dire du temps de Rabbi Elazar ben Azaria, pendant très longtemps, les rabbins disaient qu'on ne rappelait la sortie d'Égypte que le matin et pas le soir. Mais Rabbi Elazar ben Azaria dit, j'ai enfin mérité que cette halakha soit fixée, jusqu'à ce que ça soit interprété par Benzoma, chez Neymar, ainsi qu'il est dit. Lema antiskor et yom tzetecha me'eretz mitzrayim kol yemer hayecha. Il faut que tu te souviennes du jour où tu es sorti du pays d'Égypte, tous les jours de ta vie. Il y a ici un mot en trop, le mot kol. Kol en français, ça veut dire en hébreu tout. Donc, selon l'habitude des Chachamim, quand il y a un mot de trop, c'est pour interpréter. Alors, que veut dire ce mot kol? Yemechayecha hayamim. S'il n'y avait écrit que les jours et pas tous les jours, on aurait compris que ça veut dire pendant la journée, c'est-à-dire la partie éclairée de la journée. Kol yemechayecha, le fait qu'on ait rajouté le mot tous les jours de ta vie. Halelot, ça veut donc dire qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte aussi la nuit. Jusque-là, vous suivez? Parce que c'est l'art très simple. Mais vous allez voir que ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir que si quelque chose n'est pas clair maintenant, ça devienne clair dans la suite du cours. Donc si quelque chose n'est pas clair maintenant, il faut le dire tout de suite. Vachachamim omrim. Mais les sages pensent autrement. Comment est-ce que les sages qui s'opposaient à l'interprétation de Ben Zoma expliquaient le verset? Ils disaient Yeme hayecha ha'olam hazeh. Quand on dit les jours de ta vie, ça veut dire de nos jours. Kol, mais le mot kol, lehavi limot amashiach, vient nous apprendre que même au temps messianique, il faut rappeler la sortie d'Égypte. Bon, ça pose énormément de questions ce qu'on vient de voir. Bon, la halakha n'est pas comme la halakha hamim, la halakha est comme Ben Zoma, qui est que l'on mentionne la sortie d'Égypte le soir parce que le mot kol est nécessaire pour comprendre qu'on lit la sortie d'Égypte la nuit. Et tandis que Yemechayecha, c'est les journées. Pour les Chachamim, le mot Yemechayecha signifie pendant l'histoire, et à la fin de l'histoire, au temps messianique, on doit aussi mentionner la sortie d'Égypte. Nous allons essayer de sortir ici une série de conclusions, des conséquences de ce qui vient d'être dit. Pour les Chachamim, on ne mentionne pas la sortie d'Égypte le soir, ni pendant le temps de l'histoire, ni au temps messianique, mais uniquement le matin, aussi bien pendant l'histoire que pendant les temps messianiques. J'espère être clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de Ben Zoma? Ben Zoma dit non, pas du tout. On mentionne la sortie d'Égypte le matin et le soir, pendant le temps de l'histoire, et pas du tout, ni le matin, ni le soir, au temps messianique. Êtes-vous d'accord? C'est-à-dire que pour Ben Zoma, dès qu'arrive le temps messianique, on arrête la lecture du troisième paragraphe du schéma, aussi bien le matin que le soir. Et donc, on raccourcit la présence à la synagogue. D'accord? Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une conséquence halachique. Il y a une conséquence dans la halacha au fait que l'on arrive ou qu'on n'arrive pas au temps messianique. Ce qui demande donc une définition du point de vue de la halakha, de ce qu'on appelle le temps messianique, pour savoir quand est-ce que l'on coupe le schéma. Pire que ça, si j'arrive au temps messianique, et que je continue quand même, d'après Ben Zoma, je continue quand même à lire le troisième paragraphe du schéma, et donc je lui rajoute également la bénédiction de Gaal Israël le matin, et les deux bénédictions de Gaal, Israël et Ashkibenu le soir, je fais trois bénédictions Levatala, sans parler du temps que je perds à la synagogue, alors que je voudrais rentrer à la maison, mais il y a le fait que je fais trois brachot Levatala, trois bénédictions que je n'ai pas le droit de réciter. Donc, il est important, du point de vue de la halakha, de définir ce qu'on appelle les temps messianiques. D'accord? C'est très important. Donc, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas eu de réaction hostile à cette idée que, d'après Ben Zoma, le fait qu'on arrive au temps messianique implique un raccourcissement de la prière, enfin, un raccourcissement de la lecture du schéma. On ne lit pas le troisième paragraphe, ni le matin, ni le soir. Bon, tout cela est connu, relativement, c'est écrit dans la Haggadah de Pessah. Le problème, c'est la suite. C'est-à-dire, la Guémara. Nous allons lire maintenant le texte de la Guémara, et la Guémara nous ramène le débat qui a eu lieu entre Ben Zoma et les Chachamim après cette histoire. Ça, ce n'est pas raconté dans la Haggadah, mais c'est raconté ici dans la Braïta amenée par la Guémara. Je lis ici donc quatre lignes à partir du bas, là où il écrit Gum, en gros, c'est la Guémara. Tania, On a dit, Amar Lahem Ben Zoma la Chachamim, que Ben Zoma a répondu au Chachamim. Une petite question simplement avant de continuer. Mais est-ce qu'on a besoin d'un verset pour nous dire qu'une mitzvah est à accomplir même au temps messianique? Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'un verset pour nous dire qu'au temps messianique, on continue à faire Shabbat? Ou qu'on continue à manger kasher? C'est pas nécessaire. Tant qu'il n'y a pas d'instruction qui nous dit d'arrêter, on continue. Alors pourquoi, pour la lecture du schéma, pour sortir, pour se rappeler de la sortie d'Égypte, on a besoin d'un verset qui nous le prouve, et que si on n'a pas de verset, alors on arrête? Oui? Si? Si, vous allez voir que c'est exactement ce qu'il dit. Dans la Mishnah, ce n'est pas dit en toutes lettres, mais c'est supposé, c'est implicite. Dans la Mishnah, il dit que le mot « kol » est utilisé pour la nuit. Et les Chachamim disent non, on en a besoin pour le Mashiach. Ce qui veut dire que s'il est utilisé pour la nuit, on n'a pas de source qui nous dit de continuer à rappeler la sortie d'Égypte au temps du Mashiach. À moins qu'on ait un autre verset. Mais ça veut dire, le fait même qu'on ait besoin d'un verset pour le prouver est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un verset pour prouver qu'une mitzvah continue à être accomplie au temps messianique? À moins que ça soit quelque chose qui fasse partie de la nature même de la mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte. Bichlal, une mitzvah qui consiste à se rappeler de quelque chose, c'est bizarre. Pourquoi se rappeler de quelque chose qui s'est passé dans le passé? À quoi ça sert de se rappeler de quelque chose du passé? En principe, ça ne sert à rien. Comme on dit en bon français, « Adi fat mat ». C'est-à-dire, ce qui est passé, est passé. Et pourtant, on voit ici que la Torah nous a dit de nous rappeler de beaucoup de choses, entre autres de la sortie d'Égypte. À quoi ça sert de se rappeler la sortie d'Égypte? Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'un événement, de faire une fête pour se rappeler de l'invention de la roue? Vous savez que l'invention de la roue a été très importante dans l'histoire du monde. Grâce à la roue, il y a un développement technologique absolument incroyable. Et je suppose qu'il fut un temps où l'homme préhistorique mangeait des roues en forme de beignets, enfin des beignets en forme de, ou des roues sucrées, chaque année pour se rappeler du jour où on avait inventé la roue. Mais ça a probablement cette fête qui a dû exister il y a très longtemps a disparu de la mémoire des hommes. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a aucun risque qu'on oublie qu'est-ce que c'est qu'une roue. C'est-à-dire qu'on se rappelle de quelque chose qu'on risque d'oublier. Donc il y a une mitzvah. Comment?
Parce qu'on le voit, on ne peut pas l'oublier.
Oui, on n'oublie pas. La roue, ça marche, tout le monde sait. Peut-être que les premiers inventeurs de roues, ils avaient besoin de se rappeler de ce que c'était. Donc la sortie d'Égypte, on en a besoin probablement parce qu'il y a des choses à en tirer, des choses très importantes, qu'on risque d'oublier. Et donc la Torah nous dit non, n'oublie pas. Il y a la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte apprend beaucoup de choses. À quoi ça va m'amener ce que m'a appris la sortie d'Égypte? Eh bien, ça m'apprend qu'on peut sortir d'Égypte. Mais jusqu'à quand on a besoin de savoir qu'on peut sortir d'Égypte? Ben pour savoir qu'on peut sortir d'Europe, ou qu'on peut sortir d'Amérique, ou d'Australie, ou du Yémen, ça. On doit le savoir. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir qu'arriver au temps messianique, c'est possible. C'est à ça que sert la sortie d'Égypte. Donc, une fois qu'on est arrivé au temps messianique, en toute bonne logique, il est inutile de se rappeler de la sortie d'Égypte. De même que, par exemple, nos ancêtres se rappelaient certainement, quand ils étaient en Égypte, de la sortie d'Our Kasdim. Ils se disaient, oui, c'est vrai, le Dieu de nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov les a fait sortir d'Our Kasdim, les a fait sortir de chez Lavan. De même que Dieu a fait sortir nos ancêtres d'Our Kasdim et de chez Lavan, viendra un jour où il nous fera sortir d'ici. Et puis un jour, le bon Dieu, il a envoyé Moshe et nous sommes sortis d'Égypte. Alors, tout le récit de la sortie d'Our Kasdim a été oublié. On n'en parle plus. Alors, c'est un peu la même chose. Donc, le point de savoir, est-ce qu'il y a une valeur au fait de se rappeler la sortie d'Égypte au temps messianique? C'est ça le débat entre Ben Zoma et les Chachamim. Et nous allons voir ce qu'en dit la Gemara. Regardez le texte, c'est absolument inouï. Tania Amar Lahem Ben Zoma la Chachamim. Ben Zoma a demandé aux sages. Vechi maskirin yetziat mitzrayim limot haMashiach. Est-ce que l'on devrait rappeler la sortie d'Égypte au temps messianique? C'est-à-dire, pour Benzoma, c'est une évidence qu'on ne parlera plus de la sortie d'Égypte au temps messianique. V'chim maskirin yitziat mitzrayim yivot ha-mashiach. Va'alo, kvar ne'emar, n'est-il pas déjà dit? Alors, il va nous amener, en plus, un verset. Le verset que va amener Benzoma est un verset tiré du prophète Jérémie, Yirmiyahu. Et dans ce verset, on va le lire le verset, vous n'en faites pas. Mais le problème à savoir, le verset est censé dire qu'au temps messianique, on ne parle plus de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? On va voir si c'est ça que dit le verset. En tout cas, c'est comme ça que Benzoma l'a compris, qu'au temps messianique, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. La seule question que je me demande quand on va lire le verset, c'est, je me demande d'être attentif et de me dire où on parle du Mashiach dans ce verset. D'accord ? Alors, que dit le verset ? Va'alo kvar ne'emar, n'est-il pas déjà dit ? Hine yamim ba'im ne'um Hashem, voici que des jours viennent, parole de l'Éternel. Ve'lo yomru od, on ne dira plus. Qu'est-ce qu'on ne dira plus ? Hay Hashem asher elai b'nei Israël meret Mitzrayim. Je jure au nom du Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. C'est-à-dire, cette forme de serment ne sera plus employée. Kim, mais alors qu'est-ce qu'on dira à la place ? Hay Hashem, par la vie, par Dieu, Asher He'ela va Asher Hevi, qui a fait monter et amener et Zera Bet Israël, la descendance de la maison d'Israël, mais Eretz Tsafona, du pays du Nord, et de tous les pays où je les ai dispersés. Donc, le prophète Jérémie est explicite. Vient un temps, on ne parle plus de la sortie d'Égypte. Donc, ni le soir, ni le matin. C'est ce que dit Benzoma. Et le verset, d'après Benzoma, parle des temps messianiques. Mais vous qui avez lu le verset comme moi, de quoi parle le verset ? Du rassemblement des exilés. Ce qui veut dire que pour Benzoma, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour lui, il y a une évidence. Le temps messianique, c'est le temps où on ramène des enfants d'Israël de tous les pays du monde. C'est ça, les temps messianiques. D'accord ? Et non seulement c'est vrai pour lui, mais c'est vrai également pour les Chachamim auxquels il s'adresse. Maintenant, c'est bien embêtant. Il a amené un verset de Jérémie. Qu'est-ce que vont répondre les Chachamim à l'argument de Benzoma ? Ils doivent quand même avoir une réponse. Amroulo, ils lui ont répondu. Lo shete aker yitziat mitzrayim imekoma. Ça ne veut pas dire que le souvenir de la sortie d'Égypte sera déraciné de son endroit. C'est-à-dire du souvenir. C'est-à-dire, d'après les Chachamim, il y a écrit. C'est vrai qu'il y a écrit qu'on ne se rappellera pas de la sortie d'Égypte, mais les Chachamim te disent, ça ne veut pas dire qu'on ne se rappellera pas de la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, Shetele Shiambud Malchuyot Ikar Vitziat Mitzrayim Tafello. Ça veut dire seulement que l'indépendance politique sera l'essentiel et la sortie d'Égypte lui sera associée. Ça veut dire que d'après les Chachamim, on n'oubliera pas la sortie d'Égypte, mais l'essentiel, ça sera l'indépendance politique. Remarquez une chose importante, même pour les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Benzoma, il est évident que le retour à l'indépendance politique est plus important que la sortie d'Égypte. Ça va de soi pour eux aussi. Maintenant, ça veut donc dire quoi ? Pourquoi c'est plus grand que la sortie d'Égypte ? Tout simplement parce que la sortie d'Égypte est un événement mineur par rapport au retour d'Israël. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la sortie d'Égypte, c'était la sortie d'un seul pays. On est sorti d'Égypte. Et lors du rassemblement des exilés, on sort de 200 pays. Lors de la sortie d'Égypte, on est sorti après 2 siècles d'exil. Et lors du retour des exilés, on sort après 2 millénaires d'exil. Et lors de la sortie d'Égypte, on a été libéré pour repartir plus tard en servitude, puisqu'il y a eu la destruction du temple. Tandis que lors du retour des exilés, nous revenons pour l'éternité. Donc ça réduit énormément la dimension de la sortie d'Égypte. Ce qui se passe donc de nos jours, lors de la sortie d'Europe et des autres pays, est en fait un événement beaucoup plus gigantesque que celui de la sortie d'Égypte, Simplement, comme nous sommes en train de le vivre, nous n'en rendons pas compte toujours. Mais c'est écrit en toutes lettres. Si vous voulez un quatrième élément qui fait que cet événement de nos jours est plus grand que la sortie d'Égypte, c'est qu'il se fait par des voies naturelles et pas par des voies miraculeuses. Quand quelque chose se fait par miracle, ça veut dire qu'il y a eu une insuffisance de la nature. La nature ne suffisait pas pour amener la Géoula. Tandis que lors de la sortie d'Europe, eh bien tout s'est fait par des voies providentielles, mais naturelles. Et donc, on peut dire de ce point de vue-là, nous vivons un événement beaucoup plus grand, et ça, les Chachamim et Ben Zoma sont d'accord. Seulement, Ben Zoma dit l'événement est tellement grand qu'il rend ridicule le souvenir de la sortie d'Égypte, tandis que les Chachamim disent non, ça ne rend pas ridicule, on a besoin de la sortie d'Égypte, c'est important quand même, ça nous a amené jusque-là, il ne faut pas oublier. D'accord ? Je pense que c'est assez clair pour l'instant. Pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire, que quand on vit un événement, on ne se rend pas compte de l'ampleur de l'événement, c'est la expression des Chachamim, « En ba'al hanes makir beniso », celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il est en train de vivre un miracle. Il y a un texte assez surprenant dans Avot des Rabbi Nathan. Avot des Rabbi Nathan, c'est un supplément de Maseret Avot, qui est très très long d'ailleurs, qui est 10 fois plus long que la Maseret Avot elle-même, et qui est imprimé dans le Talmud à la fin du dernier volume de Nézikim. Et dans Avot des Rabbi Nathan, les Chachamim décrivent comment s'est passé le passage de la mer Rouge. Et il est décrit comme ça, que les enfants d'Israël arrivent au bord de la mer, ils sont devant une mer rouleuse, ça fait peur. Il y a derrière l'armée du Pharaon, menaçante. À droite et à gauche, il y a un désert brûlant avec des serpents et des scorpions. Bon, c'est très embêtant. Que fait Moïse ? Il lève son bâton, la mer s'ouvre. Et il leur dit, « Kumu Ivru, levez-vous et passez !» Et les enfants d'Israël répondent, « Non, c'est de la boue, c'est humide. » Et alors Moshe prie, à Kadosh Baruch Hu, il lui demande d'assécher la boue. Et Dieu assèche la boue. Il leur dit, maintenant, levez-vous et passez. Vous comprenez, il y a toujours Pharaon derrière. Et eux, ils disent, non, on ne peut pas, parce que ce n'est pas plat. Et Moshe prie et demande que ça devienne plat. Et ça devient plat. Et après, il leur dit, allez, Kumu, Ivru. Le Midrash reprend à chaque fois. Je vous dis tout de suite, il y a 15 demandes des enfants d'Israël. Il demande que le sol soit granuleux. Il demande qu'il y ait un toit pour par la mer, qu'il y ait de la boisson et des fruits pour les enfants. C'est-à-dire, si ça ne passe pas comme ça, pas toutes les conditions sont remplies par la sornoute, je ne viens pas. Et après, j'ai compté, hein, il y a effectivement là-bas 15 demandes différentes, et finalement, les enfants d'Israël sont prêts à passer. Alors, on se dit toujours que si on était présent, nous, on se dirait, mais c'est tellement énorme, c'est un événement tellement grand, évidemment, on rentre dans la mer. Mais non, pas du tout. Eh bien, c'est la même chose de nos jours. Nous sommes en train de vivre un événement beaucoup plus grand et on ne se rend pas compte de l'ampleur de l'événement. En tout cas, d'après les Chachamim, on doit quand même se rappeler de la sortie d'Égypte. Je dois rappeler quand même quelque chose d'assez important, mais avant de le rappeler, je voudrais faire une déclaration. La déclaration est « Je m'oppose à la consommation de Hametz à Pessah ». Fin de la déclaration. D'accord ? Je me suis mis une garantie. Je suis contre de manger du Hametz à Pessah. Une fois que j'ai dit ça, je vais vous faire remarquer un phénomène intéressant. Il y a en Israël un plus grand pourcentage d'Israéliens qui font de la viande grillée à Yom HaAtzmaout que d'Israéliens qui ne mangent pas de Hametz à Pessah. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le prophète Jérémie a raison. Que dans le souvenir national, l'indépendance politique prend une place plus importante que celui de la sortie d'Égypte. Je n'ai pas dit que les Israéliens ne font pas le seder. Beaucoup d'Israéliens font le seder, mais pas tous les Israéliens s'empêchent de manger du hametz. Ça veut donc dire que le prophète a raison. Il y a dans la conscience d'Israël des choses qui ont pris une place plus importante que la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est bien du point de vue d'Alaha ? Évidemment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de manger du Hametz à Pessah. Mais le fait est là. Bon, jusque-là, je pense que tout est clair. Maintenant, nous allons compliquer les choses un peu plus. Bon, vous n'avez pas de réaction, tant pis. Hein, c'est... Bon. Il faut prouver ce que disait Chacham Yisrael. Quand Benzoma dit que le prophète dit qu'on parlera pas de la sortie d'Égypte, il se base sur le pshat, c'est-à-dire c'est ce qui est écrit dans le verset. Mais dire que le verset dit simplement que la sortie d'Égypte sera minorisée, mais ne disparaîtra pas complètement, il faut prouver. Parce que le prophète dit en toutes lettres, « Lo yomro », on ne dira plus. Alors, nous allons à un autre exemple. « Kayotse bo ata omer ». On voit dans le même ordre d'idée, Lo yikare shimcha od Yaakov ki im Yisrael yihye shemecha. On ne t'appellera plus du nom de Yaakov, ton nom sera Israël. Je tourne la page. Lo she Yaaker Yaakov imekomo. On voit bien que ça ne veut pas dire que Yaakov a disparu. Et là, Israël ikar ve Yaakov tafello. Israël est l'essentiel, Yaakov lui est associé. Ça veut dire, parce qu'effectivement, on voit dans le texte de la Torah, qu'après le changement de nom de Yaakov, qui devient Israël, après que l'ange lui dit « on ne t'appellera plus Yaakov », la Torah continue à l'appeler Yaakov. Alors ça veut dire qu'on ne t'appellera plus, ça veut dire que ça sera secondaire. L'essentiel, c'est Israël, mais associé, il y a Yaakov. Alors ça veut dire qu'il y a... Ça nous apprend énormément de choses. Tout d'abord, que nous avons une double identité. Parfois nous nous appelons Yaakov et parfois nous nous appelons Israël. Il semblerait même qu'il y aurait une sorte de parallèle entre le temps de l'exil et le temps de la Géoula. Pendant le temps de l'exil, nous nous appelons Yaakov, pendant le temps de la Géoula, nous nous appelons Israël. C'est quoi Yaakov? C'est quoi Israël? C'est une nouvelle définition de l'identité d'Israël. Eh bien, c'est très simple. Être Yaakov, c'est vivre la sainteté de la Torah au niveau individuel, ce qu'on appelle en français la religion. La religion étant la sainteté de l'individu. C'est ce qu'elle propose, la religion. Elle dit à l'individu, si tu fais ça et ça et ça, eh bien tu auras, toi, un bon endroit, un bon fauteuil au Gan Eden. C'est tout à fait légitime. C'est simplement restreint. Tandis que ce dont parle la Torah, elle parle d'Israël. Israël, c'est une identité nationale, celui qui est capable de lutter, d'engager la lutte contre l'ange de Esav. C'est une identité nationale. C'est-à-dire, les mitzvot sont vécues non pas comme l'accomplissement d'un devoir religieux, mais comme l'accomplissement d'un devoir national. Alors évidemment, Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Il est le dieu de la religion ou le dieu de la nation? On n'a qu'à voir dans la Torah, ce que dit la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, jusqu'à présent tu t'es occupé d'amener des gens à la Emouna, au service de Dieu, mais maintenant, Israël et Goy Gadol, je vais faire de toi une grande nation. Tu iras dans un pays, et dans ce pays, tu vas fonder une nation. C'est quoi une nation dans un pays? Ça s'appelle, en français, un État. C'est-à-dire, ce qu'a fait Abraham, il est passé de la religion à la politique. Et c'est en tant que représentant, si vous voulez, de la politique d'Akadosh Baruch Hu, qu'Abraham agit dans le monde. Il agit en tant que nation au sein des nations. Vénivrechou Bechakol Mishperot Adama, parfois seront venues toutes les familles de la terre. Donc c'est ce passage de Yaakov à Israël, de l'identité individuelle à l'identité collective, qui est mentionné dans le texte de la Torah au moment où Yaakov rentre en Eretz Israël, justement. Alors, vous comprenez que ce que je dis là, c'est une bombe. C'est-à-dire que pour la société d'Israël, lorsque le moment était venu, depuis déjà 150 ans, de rétablir l'identité nationale d'Israël, ça s'est pas fait sans friction. Il y a eu une partie du peuple d'Israël qui s'est dit « nous satisfaisons d'être Yaakov. Il nous suffit de vivre notre judaïsme au niveau individuel et communautaire. Nous restons Yaakov. Nous refusons la dimension Israël. » Et il y a eu une autre partie du peuple qui a dit « nous voulons être Israël. » Ils ont rajouté à ça, hein. Et nous refusons d'être Yaakov. Et nous allons donc devenir des sionistes anti-religieux. C'est-à-dire, il y a eu une polarisation de l'identité d'Israël, ceux qui devaient opter pour Yaakov, ceux qui devaient opter pour Israël. Et là, qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Je parle ici de l'opinion encore assez facile des Chachamim. c'est Israël qui est l'essentiel. Mais il ne faut pas oublier Yaakov. Il faut continuer à s'acquitter de la dimension Yaakov. Elle a son sens dans l'histoire. Il y a en Israël, pas loin d'ici, il y a un musée unique en son genre, ce qu'on appelle le Bet HaTfutzot, le musée de la diaspora. Très bizarre ce musée. Dans ce musée, il n'y a aucune pièce historique. C'est du carton-pâte. C'est une représentation très détaillée de tout ce que le peuple juif a passé pendant 2000 ans d'exil. Mais qui c'est qui a fondé ce musée? C'est l'État d'Israël. Ça veut dire qu'Israël reconnaît sa dette envers Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle ce musée a été fondé. C'est-à-dire, Yaakov t'a fait l'eau. Il ne faut pas oublier. Il y a c'est pas seulement qu'il ne faut pas oublier pour des raisons sentimentales. Il y a des raisons essentielles à cela. Peut-être qu'on en parlera par la suite. Mais en tout cas, ce que dit ici la Guémara, Yaakov n'est pas déraciné, Israël prend la place essentielle. Il y a en Israël toute une dialectique autour de ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans la carte d'identité? Par exemple, dans la carte d'identité, il y a écrit juif. Vous savez, c'est écrit. Oui, c'est plus écrit dans le document que vous portez dans votre portefeuille, mais c'est écrit au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire dans votre véritable carte d'identité, celle qui se trouve dans les archives, il y a écrit que vous êtes juif. Le problème, sous quelle catégorie? Peuple ou religion? Alors, il y a des choses absolument incroyables écrites. Peuple, il y a écrit les hommes Yehoudi, date Yehoudi. Vous êtes donc de peuple juif et de religion juive. C'est comme si on avait gardé l'ambiguïté. Alors qu'on ne comprend pas que, en fait, l'un chasse l'autre. C'est le problème de Yehoudi, Megaresh Yehoudi. C'est un juif repousse l'autre juif. Ça, c'est pour ceux qui étaient là lors de l'histoire de Gouch Katif. Bon. Donc, il y a ici une transformation de l'identité. Je vais donner un exemple tout simple. Il y a des mitzvot qui sont des lois de la Knesset. Je vous en donnais deux. Il y a deux mitzvot qui sont des lois de la Knesset et personne ne s'y oppose. La première, c'est que la langue officielle de l'État d'Israël, c'est l'hébreu. Très bizarre, c'est une mitzvah de parler l'hébreu. D'après le Rambam, ça fait partie de la mitzvah d'étudier la Torah. Alors, comment se fait-il que des parlementaires israéliens anti-religieux ne s'opposent pas à ce que la langue officielle de l'État soit l'hébreu? Autre loi, le jour de repos hebdomadaire, c'est le Shabbat, et pas le dimanche. Contrairement au monde éclairé qui se repose le dimanche. Pourquoi est-ce que les Chavrei Knesset anti-religieux ne s'opposent pas à cette loi qui nous détache du reste du monde? Qu'est-ce qu'ils répondront? Ils répondront, mais vous êtes complètement à côté de vos comptes. L'hébreu, c'est la langue nationale des Juifs, et le jour national de repos hebdomadaire des Juifs, c'est le Shabbat, ça n'a rien à voir avec le religieux. Ça veut dire, en fait, qu'il y a deux mitzvot qui n'ont pas perdu leur caractère national. Il y a même une loi qui est à la frontière de cela, il y a une loi qui concerne la cacheroute. Il y a une loi sur l'élevage du cochon en Israël. Vous savez que si vous êtes juif, d'après la loi, vous n'avez pas le droit d'élever du cochon. C'est tout à fait raciste, aussi bien envers les juifs qu'envers les cochons. Mais vous n'avez pas le droit. Et en fait, c'est un irrationnel. Si vous demandez à des juifs, mais pourquoi? S'il y avait par exemple une loi du lapin qui interdirait d'élever de lapin, ça ne passerait pas. Mais la loi du cochon, elle passe. Pourquoi? Parce que ça a laissé une trace indélébile depuis les persécutions de Antiochus contre les Juifs, etc., qu'on a voulu obliger les Juifs à manger du porc. Alors, c'est resté quelque part qu'un Juif ne mange pas de porc, même s'il mange du lapin. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, c'est vrai pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot sont des mitzvot d'ordre national. Simplement, c'est oublié. Et parce que c'est oublié, ça crée le conflit religieux et laïque en Israël. Alors qu'en vérité, tout cela fait partie d'un seul et même univers. Yaakov et Israël sont la même chose. Et là, la Guémara, qui n'en a pas fini de nous compliquer les choses, continue. Qu'est-ce qu'elle dit? Vechen hu omer. Alors on nous amène encore un autre verset pour nous prouver que les choses ne disparaissent pas. Le verset, c'est dans Yeshayahu. Al tizkeru rishonot ve kadmoniot al tidbonanu. ne vous souvenez pas des premiers événements et des choses antiques, ne tenez pas compte. La suite du verset, c'est « Ineni oser hadasha atatismar » « Je vais faire quelque chose de nouveau qui maintenant va croître. » C'est ce que dit le prophète Yeshayahu. Alors comment est-ce que la Gemara comprend ce texte? Elle dit comme ça. « Al tizkeru rishonot zeshiabud malchuyot » C'est-à-dire, ne vous rappelez pas des premiers événements, c'est-à-dire l'indépendance nationale. « Vekadmoniot al titbonano zoitziat mitzrayim » Ne vous rappelez pas de l'Antiquité, c'est la sortie d'Égypte. Ça veut dire que le prophète nous dit quelque chose de beaucoup plus énorme que ce que nous a dit Yirmiyahu. Yirmiyahu nous a dit, ne vous rappelez pas de la sortie d'Égypte, rappelez-vous de l'indépendance. Mais non, Yeshayahu va plus loin. Il dit, ne vous rappelez ni de l'indépendance, ni de la sortie d'Égypte, parce qu'il y a un troisième événement encore plus important. Waouh, ça fait peur. Un troisième événement qui est tellement énorme qu'il sera plus grand que la sortie d'Égypte et la fondation de l'État d'Israël ensemble. C'est quoi cet événement ? Je vais faire quelque chose de nouveau qui maintenant va croître. Tanei Rav Yosef. Rav Yosef a enseigné Zo Milchemet Gog u Magog. Il s'agit de la guerre de Gog et Magog. Ah bon, c'est quoi la guerre de Gog et Magog? La guerre de Gog et Magog, elle est mentionnée dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38. Il s'agit d'une conflagration universelle. Lorsque une fois Israël rentré sur sa terre, il se fait attaquer par l'ensemble des nations de la terre. Une sorte de guerre mondiale. Et dans cette guerre mondiale, devinez tout de suite qui gagne. C'est nous. Et non, c'est très bien. Ça finit très bien. Mais enfin, disons que ça fait peur. Il y a une sorte de confrontation avec l'universel. Et le résultat de cette guerre, le verset le dit en toutes lettres, « Vid gadilti, vid kadishti, je serai grandi et sanctifié, venodarti lene amim rabim, je serai connu aux yeux de nombreuses nations, via des rokani hachem, ils sauront que je suis l'Éternel. » C'est-à-dire, la finalité de la guerre de Magog est une finalité universelle. Alors, si c'est vrai ce qu'il dit Rav Yosef, que c'est comme ça qu'il faut comprendre le prophète Yeshayahu, alors ça veut dire qu'en fait, il y a une troisième identité qui doit se créer en nous. Non seulement Yaakov, et non seulement Israël, mais une troisième forme d'identité qui doit apparaître. Elle s'appelle comment? Elle doit avoir un nom, cette troisième identité. Ben, c'est très simple. Notre troisième ancêtre, il avait trois noms, non? Il s'appelait Yaakov, Israël et Yeshurun. Yeshurun. Donc il y a une troisième identité, l'identité Yeshurun, qui doit se manifester en fin d'histoire. C'est nous, non plus en tant que religion ou même en tant que nation, mais en tant que centre de l'humanité. C'est-à-dire, nous avons une mission universelle qui se manifeste à travers la guerre de Gog et Magog à un moment de l'histoire, et c'est ça, c'est tellement énorme que ça va même effacer du souvenir des événements antérieurs. Très important ça. Je vais donner un exemple tout bête à propos d'une des mitzvot pour comprendre ça. Nous mettons les téphilines. Mais pour quelle raison? On peut dire que c'est pour des raisons religieuse. Par exemple, c'est ce que dit Maïmonide, quand on porte les téphilines sur la tête, dit Maïmonide, on est rempli de la crainte du ciel, l'Yirat Shamayim. Le fait d'avoir les téphilines sur la tête, ça me fait quelque chose. Qu'est-ce que ça me fait? Ben, ça me fait craignant le Créateur. Si on voit dans le texte de la Torah, pourquoi est-ce qu'il faut mettre les téphilines? En souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, c'est un signe qui nous rappelle un événement de libération nationale. Donc c'est politique. Et puis après, si on voit dans la paracha de Kitavo, la Torah dit « Veraou kol ameh haaretz kishem hachem ikra alecha » et toutes les nations de la terre verront que le nom de Dieu est sur toi. Et la Gemara dit, c'est ça les téphilines de la tête. Donc il y a une finalité universelle au fait de mettre les téphilines. Donc c'est soit religieux, soit national, soit universel, soit Yaakov, soit Israël, soit Yeshurun. Chacun choisit selon son option. On peut dire qu'il y a dans la société israélienne, ces trois mouvements-là, à la fois. Il y a ceux qui se définissent exclusivement comme religieux, en tant que Yaakov, ceux qui se définissent exclusivement en tant que nationaux, et puis il y a également le cosmopolitisme gauchisant qui remet en question le sionisme. Le post-sionisme, ça participe d'une certaine manière, c'est une étincelle de Yeshurun qui est mal placée, hélas, mais enfin qui existe quand même. Donc vous avez trois relation possible à l'identité d'Israël, Yaakov, Israël et Yeshurun. Vous avez donc les religieux, les nationaux et les cosmopolites, tout ça, ça se retrouve dans l'identité d'Israël. Et pour ça, il y a des événements historiques. Regardez ce que dit ici la Gemara. Machal les mains d'Abar Domé. À quoi cela ressemble-t-il? Les Adam, Shayam et Aler Baderech, un homme qui marchait sur son chemin. Ufagabo Zeev, il a rencontré un loup. Venitsal Mimeno, il vient, il en a échappé. Veayam et Saper Voler Marcezev, il racontait à tout le monde son histoire du loup. Vous comprenez que ça correspond ici à la sortie d'Égypte. Le loup, c'est Pharaon, et nous avons été sauvés du loup. Pagabo arrive et Nitzal Mimeno, puis après il rencontre un lion. C'est plus grave qu'un loup. Nitzal Mimeno, il en est sauvé. Veayam et Saper Voler Marcezev, puis il racontait l'histoire du lion. C'est-à-dire nous sommes sortis de l'Empire britannique. Rappelez-vous que le symbole de l'Empire britannique, c'est le lion. Et puis après, Pagabo Nahash, il rencontre un serpent. Venitsa Lumeno, un serpent, c'est encore plus dangereux. Shachar Maase Shneem, il a oublié les deux premiers. Veayam et Saper Voler Maase Nahash, il raconte l'histoire du serpent. Afkar Israël, Tsarot Acharonot, Mshakrot et Tarishonot, de même, pour le peuple d'Israël, les malheurs derniers font oublier les premiers. C'est-à-dire la libération des malheurs derniers fait oublier le récit des malheurs premiers. De la libération des malheurs premiers. Donc, il y a cette idée-là. Donc, à chaque fois, il y a un autre événement qui nous fait avancer dans l'histoire. Ce qui veut dire une chose très importante, c'est que le judaïsme, d'après la Gemara, n'a pas pour fondement le passé, mais l'avenir. C'est l'avenir qui est la catégorie fondamentale de l'identité d'Israël. Mais il y a des moments dans l'histoire où nous sommes nourris par le passé. Et puis il y a des moments dans l'histoire où on commence à être nourri par le futur. C'est soit le souvenir de la sortie d'Égypte, soit ce qu'on appelle Oro Shel Mashiach, la lumière messianique qui arrive à nous. Et donc il y a ici tout un travail à faire. Maintenant, dans l'histoire récente du peuple d'Israël, en Eretz Israël, il s'est passé des choses très importantes. Tout d'abord, il y a eu 1948. En 1948, Israël a vaincu Yaakov. C'est-à-dire, c'était le triomphe du sionisme nationaliste et laïque. C'est Israël qui a dit « L'identité d'Israël devient une identité politique. L'idée religieuse est mise de côté. » Et ça a marché très bien jusqu'en 1967, comme l'a très bien fait remarquer Benno Gross. Ça a marché très bien. Et il y a un auteur israélien du nom d'Amos Oz, qui raconte que dans sa jeunesse, lui et ses amis étaient très fiers de porter le manteau israélien qu'on appelle le Doubon. Je ne sais pas si vous avez connu ça, il y a eu un moment où les Israéliens étaient remarquables aux Galeries Lafayette parce qu'ils portaient le Doubon. Le Doubon étant un vêtement ridicule qui vient de l'armée israélienne, très incommode. En tout cas, c'était comme ça que c'était porté. Il disait, moi et mes amis qui sortaient de troupes d'élite de Tzahal, nous étions très fiers de porter le Doubon. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu la fenêtre là, c'est très chaud. Ou bien mettez la clim, sinon on rajoute un peu d'huile, il n'y a pas de problème. Et donc, un petit peu quoi. Et donc, Amos Oz dit, nous étions très fiers de porter notre Doubon, et puis nous savions qu'il y avait quelques fous habillés de noir qui habitaient dans certains quartiers et qui demandaient qu'on ne les prenne pas à l'armée et qu'on ne roule pas chez eux le Shabbat. Et tout le monde était d'accord. C'était très simple. Le monde était bien séparé. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Israël et Yaakov. En 1967, il s'est passé un événement dramatique. Un Tzahal laïque a réalisé un événement biblique. Et c'était très embêtant pour tout le monde. Parce que le religieux se dit, mais enfin, retrouver le mont du temple, c'est pas aux Chilonim de faire ça, c'est à nous. Et les Chilonim se sont dit, c'est très embêtant qu'on ait conquis un endroit si sacré. C'est très embêtant. Est-ce qu'on ne peut pas s'en débarrasser, s'il vous plaît? Mais en fait, le fait est là. Ça s'est réalisé, il y a une unité, Yaakov et Israël. Et alors, ont été fondés justement tous ces mouvements, comme Gush Emunim, c'est-à-dire les colons sauvages, sionistes et religieux à la fois. Et alors Amos Oz dit, quand j'ai vu les mitnachalim, les premières implantations, et j'ai vu les mitnachalim monter sur les collines de Samarie, avec mon doubonne, j'ai compris qu'on m'avait volé l'État. On m'a volé l'État. C'est-à-dire l'État, ça m'appartenait à moi, à Israël. Et puis maintenant, Yaakov s'en mêle. C'est-à-dire qu'une sorte de synthèse s'est créée entre Yaakov et Israël. Ça ne pouvait pas ne pas amener une réaction du troisième élément, Yeshurun, qui à un moment, après les déceptions de la guerre de Kippour et encore d'autres choses, a essayé de remettre en question en bloc le sionisme et la Torah en même temps, au nom de ce qu'on appelle le village global, au nom du cosmopolitisme. Et ce phénomène est celui qui actuellement déchire la société d'Israël, entre ceux qui tiennent à la fois de Yaakov et d'Israël, contre ceux qui, d'un autre côté, sont des tenants de l'identité Yeshurun. Et de même que la solution s'est faite entre Yaakov et Israël à travers une synthèse dialectique, eh bien, il est probable que ça doit se faire également, de nos jours, dans une synthèse entre Yaakov, Israël et Yeshurun. De quoi est-ce que je parle ? Ça veut dire qu'il faut se rendre compte aujourd'hui que nous autres, habitants Eretz Israël, l'État d'Israël, fidèles à la Torah et au sionisme, nous avons une mission universelle par rapport à l'humanité tout entière. C'est-à-dire l'humanité, il faut bien comprendre un peu comment est-ce que les goyim avalent difficilement le fait de notre présence ici. C'est très embêtant pour eux. Et on ne peut pas rester indifférent à ça. D'après les statistiques que j'ai en main, il y a à peu près 7 milliards de goyim, c'est quand même assez important. Et je vous rappelle une chose très importante, c'est que les 7 milliards de goyim en question ont été créés par Dieu. Donc il sait ce qu'il fait. Il a un projet pour eux. Et nous savons que ce projet passe par ici. C'est-à-dire que les nations se disent, mais enfin, vous avez bouleversé notre théologie. Vous avez ramené, vous avez créé un événement biblique en pleine modernité, vous n'avez pas honte. Non seulement vous avez créé un événement biblique, mais alors ça veut dire quoi ? Si la Bible est actuelle au XXe siècle, alors ça voudrait peut-être dire que c'est la manière qu'a la Bible de lire l'histoire qui est la bonne. Bon, ça on peut encore l'avaler. Mais ça va encore plus loin. Peut-être que ça veut dire que c'est la manière qu'ont les Juifs de lire la Bible qui est la bonne. Alors là, c'est encore plus difficile à avaler. Mais si vous avez quand même fait tout ça, c'est que certainement vous avez quelque chose à nous dire. Et qu'est-ce que répondent les Juifs ? Non, non, nous n'avons rien à dire. Nous sommes venus ici parce que nous avons besoin d'être en sécurité. Ou bien nous sommes venus ici parce que nous avons besoin d'accomplir les mitzvot tranquillement. Alors les goyim disent, mais dans ce cas-là, vous nous avez trompés. Vous êtes des menteurs. Ce n'est pas à vous. Rendez-le aux Palestiniens. Ça veut dire qu'il y a ici, on ne peut pas rester indifférent. Nous sommes dans une histoire en mouvement. Et comme nous sommes dans ce mouvement implique tout un travail. Un travail d'une sorte de mobilisation de notre identité, de nos personnes, pour justement arriver à être une société qui aura quelque chose à dire aux nations du monde. Et c'est un peu ce que dit ici la Guémara. Par la suite, la Guémara a de beaucoup de considérations autour de la personne d'Abraham qui devient Abraham, qui, en devenant Abraham, devient universel, justement. Abraham ou Abraham, dit la Guémara, « Batechela nasa avle Aram, vasot nasa avle olam kulo ». Au début, Abraham était le père d'Aram, il consacrait ses efforts aux Araméens, et après, il est devenu le père du monde entier. Comment est-ce qu'il est devenu père du monde entier ? En concluant une alliance sur la terre d'Israël. De même pour Sarah et Sarah. Donc ici tout un plan. Et ce plan concerne les enfants d'Israël pendant leur histoire. Et là, je voudrais conclure par une petite considération sur un verset de la paracha de Va'era. Dans la paracha de Va'era, un enseignement de Manitou autour des paroles de Rashi sur le premier verset de la paracha. Vous savez que qu'est-ce que dit Dieu à Moshe lors de la révélation du buisson ardent ? Non, pas dans le buisson, en Égypte, il lui dit Vaïdaber Elohim el Moshe. Elohim s'adressa à Moshe. Vaïomer el Avani Hashem. Il lui disait je suis Hashem. Yutke Vavke. Il dit Vaera el Abraham el Yitzhak vel Yaakov. Et je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rashi, je pense que vous savez qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce sont les Avot. Rashi nous dit, Va'era, je suis apparu, Rashi rajoute, El Ha'avot, au Avot. Comme si on ne le savait pas. Un grand principe que j'ai appris de mes maîtres, c'est que quand Rashi dit quelque chose d'extrêmement banal, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond qu'il veut dire. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire par Vaera El Ha'avot, alors qu'il y a écrit en toutes lettres Abraham, Yitzhak et Yaakov? Ben, ça veut dire qu'il y a une difficulté dans le mot même de Vaera. Vous connaissez toujours le principe, pour comprendre Rashi, on se demande, mais quelle était la difficulté à laquelle Rashi doit répondre? Eh bien, la difficulté à laquelle Rashi doit répondre, c'est le mot Vaera. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est apparu alors qu'il est dit en toutes lettres, Loir aniha adam vachai, on ne peut pas me voir du vivant de l'homme? Donc, c'est contradictoire. Et la réponse de Rashi est la avot. C'est parce qu'ils étaient des avot qu'ils ont pu voir. Ah bon? Mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que être des avot. Des avot, ça veut dire être des pères. Quand je dis d'un tel, il est le père de Bidule. Qui est importante? Le père ou Bidule? Oui, Bidule, évidemment. C'est-à-dire, être père de quelqu'un, ça veut dire accepter un destin, une destinée, qui fait qu'il y a un projet dont je sais qu'il ne sera pas accompli de mon temps, mais du temps de mon fils. Ce n'est pas moi qui vais l'accomplir, c'est lui. Moi, je vis la promesse et lui va vivre l'accomplissement. Et ça, c'est ça la grandeur des avot. Quand on dit « zechut avot », le mérite des avot, c'est le mérite qu'avaient les avot d'avoir accepté d'être des avot. Maintenant, le problème est de savoir, à qui la Torah est donnée? Aux avot ou aux enfants? Aux enfants. D'abord, elle bénit Israël, parle aux enfants d'Israël. Donc, l'essentiel de l'histoire, c'est celui qui accomplit le projet. Ceux qui ont accepté les avot, ils ont accepté d'être ceux qui vivent la promesse. Ils ont accepté de ne pas être ceux qui accompliront le projet.
Qui est le plus de
sroute? C'est un sroute énorme. Les avot ont un sroute énorme.
Comment ils ont pas...
Et oui, justement, parce qu'ils ont accepté de sacrifier ça. Quand on sacrifie quelque chose, c'est qu'il y en a un très grand zéro, un très grand mérite. Maintenant, les avot, donc c'est pas, en fait, ce n'est pas vivre. Vivre, c'est accomplir. Et quand on est dans la promesse, on n'est pas dans la vie. Donc la question, Loirani Adam Vachai ne se pose pas, puisqu'ils ont accepté de ne pas vivre, donc ils ont pu voir. Mais le projet, c'est l'accomplissement. Et ça veut dire nous dire que dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a différentes sortes d'identité. Il y a des moments de l'histoire où nous avons vécu comme des avot, et des moments de l'histoire où nous avons vécu comme des fils. Par exemple, lorsque nos ancêtres voulaient sortir d'Égypte, ils étaient des avot. Ceux qui ont traversé le Jourdain avec Yehoshua, c'était des fils. Et puis lorsque nous sommes repartis en exil, lors du temps de l'exil de Babylone, nous sommes redevenus des avot. Mais ceux qui sont revenus du temps de Cyrus, c'était des bannis, des fils. De même, nos ancêtres qui ont vécu tout le temps de l'exil, du dernier exil, eh bien, eux aussi, c'était des avot. Ils ont un mérite énorme que nous n'avons pas. Mais la Torah est donnée aux fils, à ceux qui accomplissent. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en Eretz Israël et dans l'État d'Israël. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Vous avez dit que la fête comme Ben Noma.
Oui, bien sûr.
Ben Noma a dit donc qu'on devra arrêter de la Shema le soir et le matin dans les temps des Sénites.
Oui.
Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est dans les temps des Sénites.
Très bonne question. J'espérais que personne ne la poserait. Bon, mais je vais reprendre votre question. Puisque la halakha est comme Benzoma, qu'on dit le schéma, le troisième passage du schéma aussi bien le matin que le soir, et qu'au temps messianique on doit arrêter, alors pourquoi est-ce qu'on continue aujourd'hui? Pour une raison très simple. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire que nous ne faisons pas pour ne pas faire de schisme. On a assez de problèmes comme ça au sein du peuple d'Israël pour ne pas rajouter encore un sujet de controverse. Mais viendra un jour, il faudra prendre position. Oui, d'accord, mais ça vaut la peine. Pour préserver l'unité, ça vaut la peine. Mais viendra un jour, il faudra prendre des décisions. Ben, merci de votre attention. Shavuot Tov.
Merci.